Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
L'histoire chinoise et Mao.
Avec le président Mao Tse-tung, s'éteint un phare de la pensée mondiale. Venu de la profondeur populaire de la Chine, l'ayant arraché à son humiliation passée, il a réussi par la seule vigueur de son action et par l'audace de sa réflexion à lui rendre la place centrale que lui reconnaissait l'histoire.
En France, l'image de Mao a oscillé entre des extrêmes. D'un côté, Malraux, Giscard, les maoïstes, l'admiration. De l'autre, l'accusation. L'Obs, cette semaine, présente Mao en une comme le plus grand criminel de tous les temps. En Chine, les historiens ne peuvent pas se permettre ces débordements. En 1981, dans un texte tiré au cordeau, le parti a calculé la part d'erreur du maoïsme, 70-30 grosso modo. Et depuis, il convient de tenir les plateaux de la balance à la hauteur définie par les instances officielles. En même temps, dès les années 1990, les professionnels de la profession ont commencé à se donner des marges de manœuvre et beaucoup de sources sont venues au jour. Cependant, c'est la demande sociale qui a compté le plus. Les souffrances vécues pendant l'époque de Mao ont été telles que nombre de parents se sont tournés vers leurs enfants pour raconter, tandis que les enfants demandaient aux parents « Mais qu'as-tu vécu ?» Nombre d'éditeurs assez habiles pour s'adapter à ce besoin profond ont en conséquence publié d'innombrables volumes de mémoires et de souvenirs qui ont trouvé leur public. Sans doute le président actuel voudrait-il, dans ce domaine comme dans d'autres, resserrer le contrôle de l'expression, mais une formule chinoise plus vieille que lui observe qu'une fois le veau d'argile entré dans la mer, il se dissout nécessairement.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Luc Domenac, bonjour.
Bonjour.
Grand sinophile devant l'Éternel, l'un de vos livres qui pourrait correspondre un peu à notre sujet aujourd'hui chez Fayard, il y a peu, Mao, sa cour et ses complots. Mais vous avez aussi consacré beaucoup de papiers d'un genre plus académique au sujet qui est le nôtre, les historiens chinois et Mao. Il y a une tendance, vous dites ça sans cesse, qui, dès avant 89, se dessine, ne s'interrompt pas avec la tragédie de Tiananmen. Peut s'interrompre aujourd'hui.
Elle peut être calmée pendant un certain temps, mais à terme, ils n'arriveront pas à stopper le mouvement.
Cependant, les professionnels de la profession avec lesquels vous êtes en contact, les revues que vous recevez, sont susceptibles de voir leur circuit d'alimentation se tarir.
Ah oui, et ici, je veux protester officiellement et officieusement contre la disparition d'une revue qui s'appelait Yan Huang Chunqiu, c'est-à-dire c'est compliqué, je ne vais pas le traduire, mais c'était la meilleure revue d'histoire qui était d'ailleurs protégée par la famille de Xi Jinping. Eh ben, c'est terminé, sans dire. Vous savez, ils n'essayent pas de vous prévenir, ils n'essayent pas d'être polis, ils n'essayent pas de vous rendre compte. Non, tout d'un coup, vous ne recevez plus la revue. On connaît ça un petit peu.
C'est plus facile pour les historiens d'être professionnels de périodes plus anciennes. Cependant, les archives ne sont pas uniformément fermées, comme on l'imagine ici.
Et voilà, il y a des solutions qui sont encore médianes. Par exemple, au Salon du Livre, mon dernier livre a été supprimé, mais quand même, je suis dans le catalogue, si vous voulez. De la même façon, il y a des les bibliothèques continuent à fonctionner, les archives continuent à fonctionner. Et si vous êtes gentil et que si vous payez à déjeuner au conservateur, ben ma foi, vous avez vos chances. Donc on est dans une situation qui est difficilement interprétable.
Et même dans les académies et les services historiques dépendants du parti, ben, on a opéré de grandes collectes de sources orales et écrites.
Oui, c'est très émouvant et très bureaucratique à la fois. Bureaucratique parce que ça va du général à ses amis, etc., etc., et que tout le monde essaye de se venger par ses mémoires de ses médiocrités quand il vivait.
Mais à propos de sources, il faut insister d'abord sur la source principale, celle du grand timonier, qui ne peut se tarir. Qu'est-ce qu'il en est de la publication des œuvres du président Mao? Parce que vous insistez, Jean-Luc Domnac, sur le fait que à l'époque maoïste, il n'y avait pas vraiment un grand manuel d'histoire du parti, comme il y en avait en URSS. C'était les œuvres de Mao qui comptaient.
Il y a deux problèmes. Un, les papiers de Mao Tse-Tung. Personne ne sait où ils sont. Et on peut penser qu'il y a une bataille féroce sur leur état, etc., etc. Deux, l'histoire de Mao. Alors, il y a, comment dire, la partie de l'histoire qui se confond avec l'histoire de la Chine, qui est maintenant presque convenable. Et puis, il y a la partie de l'histoire qui est celle du Mao qui ne se contrôlait pas face aux dames, etc., etc. Et ça, alors ça, c'est interdit.
Mais revenons-en, si vous voulez bien, aux sources, aux œuvres, parce que pour moi, c'est un peu le pot au noir. Voici une interview, il y a quelques années, à la radio française, de Li Gao Wei. Mais alors, évidemment, on va pas se comprendre parce que je prononce extrêmement mal. Alors, c'est un historien qui n'est sans doute pas anonyme, comme nous le pensons l'un et l'autre, parce que j'ai mal dit son nom. Il fait ce point, lui, il y a 5 ans.
Si on prend l'exemple de Mao Zedong, avant faire des recherches sur Mao Zedong, on ne disposait que des extraits, donc des discours de Mao Zedong qui avaient été publiés. Or, depuis la fin des années 90, on a 3 séries très importantes avec de nombreux volumes qui ont été publiés. La première série, c'est l'ensemble des poèmes de Mao Zedong, mais aussi ses notes de lecture, donc les notes qu'il avait prises en lisant des livres, et également les enquêtes qu'il avait faites dans les campagnes. Ça, c'est la première série. La deuxième série, c'est l'ensemble des documents qu'il a pu écrire, des télégrammes qu'il a pu envoyer, donc de ses sources internes qui n'avaient jamais été publiées. Donc ça, c'est une deuxième série qui commence en fait à 49, à la création de la République populaire de Chine. Et la troisième série, c'est l'ensemble des articles qu'il a publiés et qui ont été en fait recueillis. Donc les articles dans différents journaux qui ont été recueillis et qui constituent cette troisième série.
Je vous vois bouillir, Jean-Luc Domnac.
Écoutez, c'est simple. A-t-il seulement écrit quelque chose avant les années 50? Il recrutait des secrétaires pour leur capacité à écrire. Et il leur disait, faites-moi un papier là-dessus. Et puis, d'ailleurs, ensuite, immédiatement, il le passait à son rival, auquel il disait, tu vérifies un peu le papier de un tel, et de un tel, et de un tel. À la fin, il jetait un œil, il barrait, etc., il crachouillait, et il disait, bon ben voilà, c'est signé Mao Tse-Tung.
Mais la publication des œuvres de Mao Tse-Tung, qui présente les difficultés que vous exposez, ne peut se faire maintenant en Chine, sans penser à ce qui se produit dans les universités américaines, chez les Japonais. Il y a aussi un travail d'édition à Tokyo. Le branle peut être donné par l'étranger.
Oui, un petit peu. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Mao, lui, bien sûr, il écrit toujours quelque chose qu'il a intérêt à écrire. Il écrit toujours quelque chose qui est attendu, disons, et qu'il se donne le droit de contredire un an ou 2 ans après. Et il a autour de lui une armée de gens qui écrivent pour lui, c'est tout. Alors la seule question, pardonnez-moi, c'est de savoir si quand même dans les poèmes, parce qu'il a quand même recruté des poètes aussi, mais dans les poèmes, il se peut qu'il en ait fait un ou deux qui ressemblent à des poèmes écrits par Mao Tse-Tung.
Je parle de poteau noir pour les œuvres de Mao. C'est un peu dans les bric-à-brac aussi que vous trouvez, quand vous êtes en poste à Pékin, des textes épars.
Ah, il y a un endroit qui s'appelle Panjiayuan, qui est absolument extraordinaire, qui est une sorte de marché de marché noir, où on trouve des vieux bouquins, parfois annotés, disons, par des dirigeants chinois. Et certains spécialistes ont trouvé des choses annotées par Mao lui-même, là-bas.
Et puis, il y a une librairie que vous fréquentiez, qui était tenue par un de vos amis qui vient de disparaître.
C'est aux alentours du 3e périphérique de Pékin, dans un quartier populaire de la ville, que Laurent Balouet a ouvert les portes de sa librairie. Arrivé en Chine il y a 15 ans, ce libraire chevronné est aujourd'hui un homme heureux. Sur ses étals, pas moins de 35 publications nouvelles depuis la célébration du 110e anniversaire de la naissance de Mao en décembre dernier.
Il y a beaucoup de témoignages de gardes, de personnages qui ont connu Mao, qui sont souvent parmi les plus intéressants. C'est l'histoire un peu vue par le petit bout, mais en fait, elle permet d'apprendre beaucoup sur la réalité de la vie de ce monde très souvent coupé de la réalité auquel peu de gens avaient accès, sauf eux-mêmes, et en tout cas, surtout pas les journalistes. Donc là, ça permet, ces témoignages permettent de recomposer un petit peu le monde de Mao, le monde politique de Mao.
我们的书绝大部分的新的发现
Ce sont les gens qui ont vécu plusieurs époques, qui ont connu avant la révolution culturelle et pendant et après la révolution culturelle. Donc, ils gardent encore certaines prudences, mais ils n'ont peut-être pas la même peur que d'autres personnes. Et à mon sens, c'est comme le travail de puzzle. Parce que, en fait, c'est un peu comme si chacun d'eux porte une pièce de puzzle, mais c'est seulement quand on arrive au résultat final, on révèle vraiment un dessin achevé.
Reportage d'Alain Lefkowitz, France Culture. Vous avez été ému en retrouvant la voix de votre ami. Vous avez reconnu aussi celle qui vient d'intervenir, qui, avec John Hallyday, a publié la biographie traduite chez Gallimard de Mao. Puzzle, parce que on travaille donc à partir de biographies, de mémoires, de souvenirs, les collaborateurs qui se mettent en lumière, les veuves, les enfants.
C'est ce qui est le plus intéressant. Ce sont ces témoignages des anciens copains, des collègues, etc., qui sont toujours contraints de dire du bien du patron et de dire du bien du régime, mais qui glissent un nombre de choses variables qui divergent un petit peu. Et c'est ainsi que on peut maintenant écrire des livres sur la politique chinoise et sur la société politique chinoise.
Avec une difficulté de synthèse, de toute façon la synthèse appartient au parti. Il y a une revue qui est comparable et que des éditeurs ont lancé. C'est un titre qu'on pourrait proposer d'ailleurs pour une revue française, c'est...
Vieille photo.
Vieille photo.
Lao Zhaopian.
Oui.
C'est merveilleux. Et il y en a d'autres qui ont suivi ce modèle-là.
Donc on fouille les mâles dans les greniers, quoi.
Voilà, c'est ça. On fouille les mâles, les mâles, et on fouille dans les mémoires. Et il y a comme ça des articles qui vous donnent à pleurer. Comment j'ai perdu ma fiancée, par exemple. C'est-à-dire quand le parti était venu le voir, il lui avait dit, tu sais, elle est pas pour toi, hein. Elle est pour le camarade d'un tel, hein. Et comment, mais mon père est mort de désespoir, etc., etc., etc. C'est terrible.
Bon, les Français ont moins souffert, mais il y a le même type de recherche en France.
C'est l'histoire familiale, c'est l'histoire absolument. C'est l'histoire des archives, c'est l'histoire des greniers. Je pense au grenier que ma grand-mère protégeait précisément.
Et ça, le parti ne peut pas l'empêcher. De même que quand il met des bornes à Internet avec un système particulier, un contrôle des fournisseurs qui sont en lien avec l'étranger, il peut pas empêcher sur Internet l'expression de l'émotion personnelle.
Absolument. Et c'est pour ça que partout, on peut dire que l'histoire gagnera. On prend pas de risque. L'histoire gagnera. La question, c'est de savoir quand. Mais d'ores et déjà, ça pousse de partout. Vous entrez dans un village. Ça m'est arrivé, un village de montagne. Vous demandez carrément. Il n'y a pas un monsieur qui s'intéresse à l'histoire un peu dans ce village. Ah, il y a le vieux un tel, un tel, un tel. Je vais voir le vieux un tel. Et il me raconte, il me dit, attention, il y a une crapule à côté, hein. C'est lui qui était du côté des maoïstes. Attention, il y a un tel à côté. Alors l'autre, il est très bien, etc., etc.
Donc l'histoire locale, comme l'histoire familiale. L'histoire locale fonctionne bien familiale. Et vous dites que il paraît que les archives locales sont moins fermées que d'autres.
Voilà, c'est ça. Et j'ai plusieurs fois vu dans des boîtes de chaussures, hein, les archives d'un village, les archives d'une colonne de guérilleros, etc., etc.
On va ouvrir quelques dossiers, comme vous nous le suggériez, Jean-Luc Domdac, une petite pause qui va nous faire un pas de côté à Hong Kong, qui a joué un rôle d'ailleurs dans l'édition de textes historiques. Hong Kong, où viennent d'avoir lieu des élections législatives, où de très jeunes élus ont permis aux démocrates de garder une minorité de blocage. Alors à propos de gens très jeunes, Nancy Wu a 34 ans, c'est une grande vedette et de la télé et de la chanson à Hong Kong.
从来没有遇见，如果那一天你没多看我一眼，我就不会先晴天哭之前，还担心肠胃极限。如果我的用心你从没有发现，如果这样，我是否该说再见？ 倒数到一起还有几天，感觉幸福就差一点，只能想象一起，但我没勇气，所以很想讨厌你，爱早没有嫌弃，如你。 说曾经在意，会让我后悔太过压抑，只能幻想甜蜜，我不能自已，让我好好讨厌你。没有你的空气，我要怎么呼吸？享受我们之间幸福距离，心动的回忆。享受我们之间幸福距离，心动的回忆。
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Luc Domenac, auteur notamment de Mao, sa cour et ses complots chez Fayard, le choix de notre réalisatrice Valérie Astaraï n'était pas si malencontreux. Parce que là, la chanteuse Nancy Wu explique qu'elle est malheureuse, qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, et elle est dans l'émotion et, voilà. Et le souvenir. Absolument. C'est un petit peu le statut de l'histoire chinoise quand elle parle de Mao. Je voudrais qu'à la faveur des textes que vous avez lus, qui ont été publiés, on observe comment sont mieux documentés quelques crises. 1959, le grand bond en avant a été décidé peu avant. Alors il s'agit de faire tourner dans le ciel des chiffres mirifiques de production de l'acier, de production agricole. Et puis sur Terre, c'est la misère, le surmenage, le gaspillage, l'absurdité et la famine. Et voilà que les dirigeants, une centaine du parti, sont convoqués dans une station de montagne. Et on a un récit par le secrétaire de Mao de l'époque, qui s'appelle...
Li Jue.
Oui. Ça s'écrit R-U-I.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Et ça, c'est inouï, là. C'est les annales de la conférence de Lushan sont données par Li Jue.
Absolument. Et Li Jue montre qu'il y a pratiquement des factions qui sont hostiles les unes à l'égard des autres. Et depuis Li Jue, on a appris ce qui est encore plus incroyable, c'est que sur le coup de minuit, 1h du matin, le maréchal le plus connu, le plus respecté, Peng Tehuai, veut voir Mao pour lui dire « J'ai envie de lancer un papier qui dénonce le grand bond en avant. »
Parce que lui, il sait que c'est absurde.
Parce que lui, il sait que c'est absurde.
Il le raconte en Europe,
Mao refuse de le recevoir, parce que Mao est en train de s'engueuler avec sa deuxième femme, qui lui reproche un tas de choses, etc. Et elle a complètement raison, elle pleure, etc., etc. Mao, ensuite, furieux, claque la porte et refuse de voir le maréchal. Du coup, le maréchal balance son papier et ça a fait un bazar terrible dans le parti. C'était ça la politique en Chine.
Mais le maréchal, il est mis en minorité. Et le maréchal est renvoyé comme étant
représentant
d'une clique de droite opportuniste.
Voilà, voilà. Et si Mao avait ouvert sa porte, peut-être que quelques milliers de personnes auraient évité la prison.
Et le grand bond à l'avance a fait au total, parce que ça a duré jusqu'en 61-62, peut-être 40 millions de morts.
Oui, 37 millions, on dit.
Alors ça m'intéresse beaucoup, et nos auditeurs aussi, et les Chinois, les premiers, l'histoire de la deuxième femme. Donc, il y a une deuxième femme. Cette deuxième femme, si j'ai bien compris, était très déprimée depuis que
Absolument.
Elle n'était plus dans le combat révolutionnaire avec Mao. Elle avait même fait 2 ans d'hôpital psychiatrique.
Oh, oui, au moins en Russie. Ouais.
Elle arrive à s'introduire nuitamment chez Mao, qui va aussi la mettre à la porte
absolument,
à son tour.
Absolument.
Et c'est vrai qu'elle a fini encore plus dépressive.
Et c'était un drame, disons, que tout le monde connaissait. Et Mao était connu pour être un génie de la politique, très génie dangereux, mais un homme cruel et qui ne s'occupait pas de ses femmes.
Donc cette femme allait la bave aux lèvres, le réclamer au siège local du parti dans la ville qu'elle habitait.
Absolument.
Nous voici maintenant dans le village, Shaoshan, le village natal, d'où d'ailleurs Mao venait quand il est allé à cette fameuse conférence. Et là, on visite le lieu où il travaillait, et c'était un lit, bien sûr.
Donc ici on voit la chambre dans laquelle a dormi Mao Zedong, donc on a un lit double, deux fauteuils et... un genre de sofa, de banquette pour se reposer, ainsi qu'une petite table pour apporter le déjeuner.
这个床啊特别的宽大。毛泽东到晚年的时候呢，他有一个习惯。
Donc en fait, le lit de Mao Zedong, on le voit, est très large et en bois. En fait, à la fin de sa vie, Mao Zedong restait beaucoup au lit pour lire. Il avait pris l'habitude de lire au lit et aussi pour travailler. Donc il lui fallait des lits assez larges.
Dans certaines biographies de Mao, on dit que Mao aimait les femmes et qu'il était entouré de femmes. Est-ce qu'ici, il a reçu des femmes aussi ?
Je pense que ça, ce sont souvent des choses qui sont colportées à l'étranger.
Le genre de femme qu'il aimait était jeune, inexpérimentée et peu éduquée. En anglais, on les appellerait des playmates.
Alors ça, c'est le témoignage qui a eu énormément de succès d'un chroniqueur qui se présente comme très intime avec Mao parce qu'il a été l'un de ses médecins.
Ouais,
que
ouais.
Je vous laisse prononcer son nom.
Assez honnête, que t'es
Li
assez
Zui.
Honnête. Voilà,
Li Zui.
Li Zui.
Alors ça passionne.
Ouais.
Parce que c'est une vieille tradition en Chine, paraît-il. Il y a l'histoire indiscrète.
Oui.
Dès l'Empire, hein,
voilà.
Sous les jupons de l'histoire,
c'est
et puis l'histoire édifiante, quoi.
Absolument, absolument. Et Mao naviguait très à l'aise d'une histoire à une autre, et il commandait et jouait avec des femmes qui venaient au kilotonne. Hein, et c'était véritablement, c'était dans un bataillon de gardes féminins qu'il pêchait, on peut dire, ses nanas, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y passait des nuits entière à gazouiller dans un lit avec 6-7 personnes.
Mais ça lui laissait pas beaucoup de temps pour travailler.
Parce qu'il dormait assez peu, il s'énervait ensuite, évidemment, il prenait des excitants, voilà. Quoi.
Mais un autre chroniqueur nous raconte, lui, c'était le secrétaire du maréchal Lin Biao, vice-président, la vie au moment où commence la crise entre Lin Biao et Mao. Voilà encore témoignages qui nous apportent une documentation nouvelle. Alors, ils avaient été 40 ans associés, le petit Lin Biao et le grand timonier, et puis la rupture commence, et on voit le domicile de Lin Biao décrit comme un truc invraisemblable, le maréchal vit dans le noir, les lieutenants regardent des films érotiques venus de Hong Kong dans la salle de projection, c'est la femme du maréchal jacasse au téléphone.
Lui n'avait que 10 minutes, 10-15 minutes de conscience par jour, hein. C'était comme ça. Sa femme, en revanche, gazouillait toute la journée et avait des amants, etc. Et ses deux enfants se disputaient l'un avec l'autre, et c'est la fille qui, en téléphone à Chou En Lai, qui lui sentait qu'il y avait quelque chose et qui a tout de suite mis en veille l'aviation chinoise.
Oui, parce que c'est en 71, Lin Biao finit par quitter le territoire.
Voilà.
Il veut, je sais pas, mener un complot.
Il veut se tailler, c'est pas où, mais il veut se tailler.
Voilà. Le fils le soutient et la fille le dénonce.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et il y a eu un moment de panique totale.
Il y a eu un moment de panique totale.
On sait maintenant comment il s'est déroulé.
Ah oui, tout à fait. On sait ça maintenant, minute par minute. Ça, c'est une histoire qui a beaucoup, beaucoup progressé. Grâce justement au témoignage, et notamment au témoignage de la fille de Lin Biao.
Donc il passait deux nuits sans dormir et en faisant creuser des tranchées autour de son domicile.
Absolument.
Mao.
C'est ça.
Je voudrais qu'on finisse en évoquant un grand travail français qui vient de paraître, celui d'Alain Roux sur Chiang Kai-shek, aux éditions Payot. Et il y a un parallèle qui mérite d'être fait. Ils sont morts à un an de distance, le chef du Kuomintang qui s'était réfugié à Taïwan et le président Mao. Ils ont été l'objet d'un culte, d'un mausolée. Et voilà maintenant que ils sont, dit Alain Roux, l'un et l'autre ritualisés, deviennent des personnages un peu abstraits, manipulables du coup. Et dans le cinéma de la Chine populaire, Chiang Kai-shek, le traître pourtant, réapparaît. Ici, c'est un film de 2009, une conférence de presse qui s'est tenue en 1945 et restituée par ce film officiel, financé par la propagande. Il y a le portrait de Sun Yat-sen, le fondateur de la République, derrière les deux hommes, et on les a mis à égalité.
Ouais.
Alors que Chiang, il était plus petit, non ?
Oui.
Il était nettement plus petit que Mao. Si, vous êtes obligé de le considérer.
Là, je suis obligé de le reconnaître.
Jiang
Je suis du Central Daily. Je remarque que vous portez tous les deux un costume mandarin. En ce jour spécial, cela a-t-il une signification particulière ?
Le costume mandarin est la tenue officielle de tous les fonctionnaires du gouvernement nationaliste.
Monsieur Mao, le portez-vous pour les mêmes raisons ?
Le représentant Chiang et moi-même sommes tous les deux des disciples du docteur Sun Yat-sen. Le Kuomintang et le Parti communiste chinois ont tous les deux reçu en héritage la révolution du docteur Sun. Il est donc naturel que les disciples du docteur Sun portent le costume mandarin.
J'ai une autre question pour Monsieur Mao. Dans les négociations à venir, considérant la question de la démocratie, les partis vont-ils trouver des bases communes ?
Si vous regardez bien, ce journaliste a déjà remarqué que nous avions une chose en commun.
Le costume, ce qu'on appelle la veste Mao, qui est en fait le costume Sun Yat-sen. C'est étonnant, cette réintroduction du personnage de Chiang Kai-shek. Oui. Dans l'histoire continue de la Chine.
Oui, parce que cette histoire, maintenant, réduit les différences entre la Taïwan et la Chine. L'une et l'autre cherchent le développement économique et la prospérité. Et que d'autre part, ce que l'on conserve, disons, du régime communiste, c'est les rares moments où il a été efficace économiquement. Et maintenant, c'est bien là-dessus que le régime est jugé par sa population. Et moi, je crois que pour cette raison-là, la priorité pour l'économie, les communistes ne parviendront pas à arrêter un mouvement qui est un mouvement qui conduit à la priorité à la vie matérielle, et un mouvement qui conduit à la priorité des souvenirs les plus exacts, les souvenirs des moins affreux, disons. Maintenant, la Chine de Taïwan et la Chine de Pékin, la Chine qui était celle de Mao et celle de Chiang Kai-shek se rejoignent progressivement.
L'expression personnelle et la consommation personnelle.
Et voilà.
Et le tour de vis, alors que vous sentez, il est dans tous les domaines, mais il est vain. Et la dernière déclaration du gouvernement consiste à dire qu'il ne faut pas de construction xénophile, oui, d'architecture imitée de l'étranger.
Ils sont contraints de faire semblant, parce que maintenant, ils sont engagés dans l'économie internationale, ils sont engagés dans la société internationale, et ils sont engagés dans une compétition qu'on ne peut gagner que si on est sympathique et positif.
Merci à vous, Jean-Luc Domnac. Parmi vos nombreuses publications, je rappelle Mao, sa cour et ses complots, l'histoire indiscrète, là, vous a tenté. C'est aux éditions Fayard. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaray, avec pour la préparation Frédéric Martin, Linka Negulesco, Mathilde Novel et Franck Olivard. La technique, c'était Pauline Laverdure. Dans La Tête au Carré, cher Mathieu Vidard.
On pose une question très simple aujourd'hui.
Ah oui, c'est comme d'habitude.
Ah mais oui, comment la vie est apparue sur Terre ? C'est très simple. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord.
Vous avez des pistes quand même. Vous êtes à la recherche des premières traces.
Absolument.
C'est donc dans quelques instants.